C'est alors seulement que je m'aperçus qu'on ne pouvait rien dire d'une femme. Je remarquai, quand il parlait d'elle, combien il la laissait en blanc, qu'il nommait et décrivait les autres, les environs, les lieux, les objets, jusqu'à un certain endroit où tout s'arrêtait, s'arrêtait, doucement et pour ainsi dire prudemment, au contour léger qui l'enveloppait et qui n'était jamais retracé. Comment était-elle? Demandai-je alors. Blonde, à peu près comme toi, disait-il. Puis ils énuméraient toutes sortes de détails qu'ils connaissaient encore. Mais aussitôt son image en redevenait plus imprécise et je ne pouvais plus rien me représenter d'elle. Je ne la voyais distinctement que lorsque maman me racontait l'histoire que je réclamais toujours de nouveau. Et chaque fois qu'elle en arrivait à la scène du chien, elle avait coutume de fermer les yeux et de tenir sa figure, toute close et cependant partout transparente, avec une sorte de ferveur entre ses deux mains dont le froid touchait ses tempes. « Je l'ai vue, Malte, me conjurait-elle, je l'ai vue. » C'est durant ces dernières années déjà que j'entendis ce récit de sa bouche. Autant qu'elle ne voulait plus voir personne et qu'elle avait toujours avec elle, même en voyage, le fin petit ami d'argent par lequel elle filtrait toutes ses boissons. D'aliments solides, elle n'en prenait plus jamais, sauf un peu de biscuits ou de pain qu'elle émiettait lorsqu'elle était seule et qu'elle mangeait brin par brin comme les enfants font la mie. Elle était alors toute dominée par sa crainte des aiguilles. Pour s'excuser, elle disait aux autres « Je ne supporte vraiment plus rien, mais il ne faut pas que cela vous dérange, je m'en trouve fort bien. » Il arrivait cependant qu'elle se tourna subitement vers moi, qui n'était déjà plus tout à fait un enfant, et qu'elle me dit, avec un sourire qui était pour elle un grand effort, « Comme il y a beaucoup d'aiguilles, Malte, comme elles traînent partout, et quand on pense combien facilement elles pourraient tomber. » Elle tenait à dire cela avec beaucoup d'enjouement, mais la terreur la secouait à la pensée de toutes ces aiguilles mal fixées qui à chaque instant pouvaient tomber de partout. Mais dès qu'elle me parlait d'Ingeborg, elle était soudain à l'abri de tous les dangers. Alors elle ne se ménageait pas, elle parlait plus fort, riait au souvenir du rire d'Ingeborg, et l'on voyait bien alors combien Ingeborg avait été belle. Elle nous rendait tous joyeux, disait-elle. Ton père aussi, Malte, oui, littéralement joyeux. Mais ensuite, lorsqu'on dit qu'elle allait mourir, bien qu'elle ne parût cependant qu'un peu malade, et nous tournions tous autour d'elle et le lui cachions, elle se mit un jour sur son séant et dit droit devant elle, comme quelqu'un qui voudrait se rendre compte du son de sa pensée. Pourquoi vous tenir ainsi sur vos gardes? Nous le savons tous et je peux vous tranquilliser. Les choses sont bien telles qu'elles viennent. J'ai mon comptant. Songe un peu. Elle dit « J'ai mon comptant », elle qui nous rendait tous joyeux. Comprendras-tu jamais cela, Malte, lorsque tu seras grand? Réfléchis-y plus tard. Peut-être comprendras-tu un jour. Il serait bon d'avoir quelqu'un qui comprenne de telles choses. De telles choses occupaient maman quand elle était seule, et elle resta toujours seule durant ces dernières années. C'est vrai que je ne trouverai jamais Malte, disait-elle quelquefois avec son sourire si étrangement téméraire qu'il ne voulait être vu de personne et se suffisait à lui-même dans son accomplissement. Mais que personne ne soit tenté de tirer cela au clair. Si j'étais un homme, oui, justement si j'étais un homme, j'y réfléchirais dans l'ordre, du commencement à la fin. Car il doit y avoir un commencement, et si seulement on pouvait le saisir, ce serait déjà quelque chose. Ah, Malte, nous allons ainsi à la dérive, et il me semble que tous sont distraits et préoccupés, et ne prennent pas garde quand nous passons. Comme si une étoile filante tombait, et que personne ne la vit, et que personne n'eût fait de vœux. N'oublie jamais de faire ton vœu, Malte, car il ne faut jamais cesser de désirer. Je crois qu'il n'y a pas d'accomplissement, mais il y a des vœux à longue échéance qui durent toute la vie, de sorte qu'on ne pourrait même pas attendre leur accomplissement. Maman avait fait monter le petit secrétaire d'Ingeborg dans sa chambre. Je l'y trouvais souvent, car on m'avait permis d'entrer chez elle à ma guise. Mon pas s'étouffait complètement dans le tapis, mais elle me sentait et me tendait une main par-dessus l'autre épaule. Cette main n'avait aucun poids, et je la baisais presque comme le crucifix d'ivoire qu'on me tendait le soir avant que je m'endorme. Devant le secrétaire dont le volet se rabattait, maman était assise comme devant un instrument de musique. Il y a tant de soleil là-dedans, disait-elle. Et en effet, l'intérieur en était singulièrement clair, de vieilles laques jaunes, avec des fleurs peintes, toujours une rouge, puis une bleue. Et là où trois fleurs se suivaient, une violette séparait les deux autres. Les couleurs et le vert de l'étroite bordure horizontale étaient aussi obscurcis que le fond était lumineux, sans être vraiment clair. Il en résultait un accord singulièrement assourdi de tons qui ne révélait pas au dehors leur mutuelle dépendance intime. Maman amenait les petits tiroirs qui tous étaient vides. « Ah, des roses !» disait-elle, et se penchait un peu vers la trouble odeur qui ne s'épuisait pas. Elle se figurait toujours que quelque chose encore pouvait tout à coup se retrouver dans un casier secret auquel personne n'avait pensé et qui ne s'ouvrait qu'à une pression sur quelque ressort caché. « Cela va se déclencher tout à coup, tu verras, » disait-elle, grave et inquiète, et ouvrait en hâte tous les tiroirs. Mais tout ce que réellement elle avait trouvé de papier dans les casiers, elle l'avait soigneusement plié et enfermé, sans le lire. « Je n'y comprendrais quand même rien, Malte. Sûrement, ce serait trop difficile pour moi. » Elle était convaincue que tout était trop difficile pour elle. « Dans la vie, il n'y a pas de classe pour les débutants. C'est tout de suite le plus difficile qu'on exige de vous. » On m'affirmait qu'elle n'était ainsi que depuis la mort terrible de sa sœur, la comtesse Olegaard Skell, qui brûla vive un soir de bal, comme elle redressait les fleurs de sa coiffure devant une glace à candélabre. Mais dans les derniers temps, Ingeborg lui paraissait de toutes choses la plus difficile à comprendre. « Et maintenant, je veux écrire cette histoire telle que maman la racontait lorsque je l'en priais. » C'était au milieu de l'été, le jeudi qui suivit les funérailles d'Ingeborg. De l'endroit où nous prenions le thé sur la terrasse, on pouvait voir entre les ormes gigantesques s'élever le pignon de la sépulture de famille. On avait disposé les tasses comme si jamais une personne de plus ne s'était assise à cette table, et tout autour nous avions pris place très à l'aise. Comme chacun avait apporté qui un livre, qui une corbeille à ouvrage, nous nous sentions même un peu à l'étroit. Abelone, la sœur cadette de maman, servait le thé et tous l'aidaient, sauf ton grand-père qui regardait de son fauteuil vers la maison. C'était l'heure où l'on attendait le courrier, et il arrivait le plus souvent que Ingeborg, retenue la dernière par les ordres qu'elle donnait pour le dîner, la porta. Durant les semaines de sa maladie, nous avions eu largement le temps de nous déshabituer de sa venue. Nous ne savions que trop bien qu'elle ne pouvait pas venir. Mais cet après-midi-là, Malte, alors que vraiment elle ne pouvait plus venir, elle vint. Peut-être était-ce notre faute, peut-être l'avions-nous appelée, car je me souviens que tout à coup, je me sentis assise là et m'efforçais de découvrir ce qu'il y avait de changé. Brusquement, il me devenait impossible de le dire. C'était complètement oublié. Je levai les yeux et vis les autres tourner vers la maison, non pas d'une façon particulière ou qui étonnait, mais très simplement dans leur attente tranquille et quotidienne. Et j'étais sur le point, Malte, j'ai froid quand j'y pense, j'étais, Dieu me garde, sur le point de dire « Que deviens donc ?» quand déjà, Cavalier, comme d'habitude, s'élança de dessous la table et bondit à sa rencontre. « Je l'ai vu, Malte, je l'ai vu. » Il courut vers elle, bien qu'elle ne vînt pas. Pour lui, elle venait. Nous comprîmes qu'il courait à sa rencontre. Par deux fois, il se retourna vers nous, comme pour interroger. Puis il se rua sur elle, comme toujours, Malte, exactement comme il avait toujours fait. Et il la rejoignit. car il commença à sauter en rond autour de quelque chose qui n'était pas là, et puis à monter le long d'elle, tout droit, pour la lécher. Nous l'entendions, qui de joie poussait des petits jappements gémissants, et de la façon dont il bondissait en l'air, très vite et sans arrêt, on aurait vraiment pu croire qu'il nous la cachait par ses gambades. Mais tout d'un coup, il y eut un hurlement, et son propre élan le fit pirouetter et retomber en arrière, avec une bizarre maladresse, et il resta étendu devant nous, étrangement, et ne bougea plus. Le domestique sortit de l'autre aile de la maison avec les lettres. Il hésita un instant, sans doute n'était-il pas aisé de s'approcher de nos visages. Et déjà ton père lui faisait signe de rester là. Ton père, Malte, n'aimait aucune bête. Mais cette fois, lentement, me semblait-il, il alla pourtant vers le chien et se baissa vers lui. Il dit un mot au domestique, un ordre bref. Je vis celui-ci se précipiter pour ramasser Cavalier. Mais ton père lui-même prit alors l'animal et l'emporta, comme s'il savait exactement où, dans la maison. Un jour que durant ce récit, l'obscurité s'était presque faite, je fus sur le point de raconter à maman l'histoire de la main. À cet instant, j'aurais pu la lui dire. Déjà j'ouvrais la bouche pour parler, lorsque je me rappelais soudain combien j'avais compris que le domestique n'eût pu s'avancer vers leur visage. Et j'eus peur, malgré l'obscurité, du visage que maman prendrait quand elle verrait ce que j'avais vu. Et vite, je repris haleine comme si je n'avais eu d'autres propos. Quelques années plus tard, après l'étrange nuit passée dans la galerie d'Urnekloster, je projetais pendant des journées entières de me confier au petit Éric. Mais depuis notre conversation nocturne, il s'était complètement isolé de moi. Il m'évitait, je crois même qu'il me méprisait. Et c'est pour cela précisément que je voulais lui raconter la main. Je m'imaginais que je gagnerais son estime, ce que je souhaitais très fort, je ne sais pourquoi, si je parvenais à lui faire saisir que j'avais vraiment vécu cela. Mais Éric était si habile à m'éluder que nous ne touchâmes jamais ce sujet. Nous partîmes du reste peu de temps après. Et c'est ainsi que, chose assez étrange en vérité, je raconte aujourd'hui pour la première fois, et ce n'est après tout que pour moi-même, une aventure qui remonte au plus lointain de mon enfance. Combien petit je devais être encore, je le vois à ceci que j'étais à genoux sur le fauteuil pour atteindre plus commodément à hauteur de la table sur laquelle je dessinais. C'était le soir, en hiver, si je ne fais erreur, dans notre appartement en ville. La table se trouvait entre les fenêtres de ma chambre et il n'y avait d'autre lampe dans la pièce que celle qui éclairait mes feuillets et le livre de mademoiselle. Car mademoiselle était assise à côté de moi, un peu en retrait, et lisait. Elle était très loin quand elle lisait, et je ne sais pas si c'était dans son livre. Elle pouvait lire de longues heures durant. Elle tournait rarement les pages, et j'avais l'impression que sous ses yeux, les pages devenaient sans cesse plus pleines, comme si son regard y faisait naître des mots nouveaux, certains mots dont elle avait besoin et qui n'étaient pas là. J'imaginais cela tandis que je dessinais. Je dessinais lentement, sans intention bien arrêtée. Puis, lorsque je ne savais plus comment continuer, je regardais mon dessin, la tête légèrement penchée à droite. Dans cette position, je découvrais le plus vite ce qui manquait encore. C'étaient des officiers à cheval qui galopaient à la bataille, ou qui étaient engagés déjà dans la mêlée, ce qui était beaucoup plus simple parce qu'il suffisait alors de dessiner la fumée qui les enveloppait. C'est vrai que maman prétendait toujours que je n'avais jamais peint que des îles avec de grands arbres et un château et un escalier, et sur le rivage des fleurs qui se miraient dans l'eau. Mais je crois qu'elle inventait, ou que ce n'était que plus tard. Il est de fait que ce soir-là, je dessinais un chevalier. Un seul chevalier bien distinct sur un cheval bizarrement carapaçonné. Il devenait si bariolé que je devais souvent changer de crayon. Le rouge, cependant, dominait, et je le reprenais à tout moment. Une fois de plus, j'allais m'en servir, lorsqu'il roula, je le vois encore, obliquement sur ma feuille éclairée, jusqu'au bord de la table, et avant que j'eusse pu l'arrêter, tomba à côté de moi et disparut. J'en avais vraiment besoin, et j'étais ennuyée de devoir descendre à sa poursuite. Avec ma maladresse, cela n'allait pas sans toutes sortes de complications. Mes jambes me paraissaient beaucoup trop longues et je ne parvenais plus à les ramener de dessous moi. Cet agenouillement prolongé avait engourdi mes membres. Je ne savais pas trop ce qui m'appartenait et ce qui était le fauteuil. Je finis cependant par débarquer en bas et confusément, je me retrouvais sur une peau de bête qui s'étendait sous la table et jusqu'au mur. Mais là, surgit une nouvelle difficulté. Habitué à la clarté d'en haut, tout ébloui encore par l'éclat des couleurs sur le papier blanc, mes yeux ne parvenaient pas à discerner le moindre objet sous la table, où le noir m'apparaissait si clos que j'avais peur de m'y cogner. Je m'en remis donc à mon toucher, et agenouillé, en m'appuyant sur la main gauche, je peignais de l'autre les longs poils frais du tapis dont le contact aussitôt me parut familier. Mais toujours pas le moindre crayon. Déjà, je me figurais avoir perdu un temps considérable et j'allais appeler mademoiselle pour la prier d'approcher la lampe, quand je remarquais qu'à mes yeux, qui malgré moi s'étaient adaptés, l'obscurité se faisait plus transparente. Déjà, je distinguais le mur du fond que bordait une plinthe claire. Je m'orientais entre les pieds de la table et d'abord je reconnaissais ma propre main étendue, les doigts écartés, qui remuaient toute seule, presque comme une bête aquatique, et palpaient le fond. Je la regardais faire, il m'en souvient, presque avec curiosité. Elle me paraissait connaître des choses que je ne lui avais jamais apprises, à la voir tâtonner là-dessous, à son gré, avec des mouvements que je ne lui avais jamais observés. Je la suivais à mesure qu'elle avançait, je m'intéressais à son manège, et me préparais à voir je ne sais quoi. Mais comment aurais-je pu m'attendre à ce que, sortant du mur, tout à coup, une autre main vint à ma rencontre, une main plus grande, extraordinairement maigre, et telle que je n'en avais encore jamais vue. Elle tâtonnait, venant de l'autre côté, de la même manière, et les deux mains ouvertes se mouvaient à la rencontre l'une de l'autre, aveuglément. Ma curiosité était loin d'être satisfaite, mais brusquement elle céda et fit place à la terreur. Je sentais qu'une de ses mains m'appartenait et qu'elle s'enfonçait dans une aventure irréparable. De toute l'autorité que je gardais sur elle, je la retins et la ramenai vers moi, étendue à plat et lentement, sans quitter des yeux l'autre main qui continuait de tâtonner. Je compris qu'elle n'allait pas s'en tenir là, et je ne puis pas dire comment je remontais. J'étais maintenant enfoncée profondément dans le fauteuil, mes dents claquaient et j'avais si peu de sang au visage qu'il me semblait n'avoir plus de bleu dans les yeux. Mademoiselle, voulais-je dire, et ne pouvais plus. Mais elle-même alors s'alarma, rejeta son livre et s'agenouilla à côté de mon fauteuil en criant mon nom. Je crois qu'elle me secoua, mais j'avais toute ma conscience. J'avalais plusieurs fois ma salive et j'allais lui raconter. Mais comment? Je fis un effort indescriptible sur moi-même, mais il n'était pas possible d'exprimer cela de façon que l'on comprît. S'il existait des mots pour un tel événement, j'étais trop petit pour les trouver. Et soudain me saisit l'angoisse. Que ces mots, bien qu'au-dessus de mon âge, pussent cependant m'apparaître tout à coup, et que je fusse alors obligée de les dire, cela me parut plus terrible que tout. Cette chose là-bas, si réelle, la vivre encore une fois, conjuguée depuis le commencement, m'entendre l'admettre, de cela vraiment, je n'avais plus la force. C'est de l'imagination, bien entendu, d'aller prétendre à présent que, en ce temps-là déjà, j'aurais pu sentir que quelque chose venait d'entrer dans ma vie, justement dans la mienne, quelque chose avec quoi j'allais devoir m'en aller seule, toujours et toujours. Je me revois couchée dans mon petit lit cage, ne dormant pas, pressentant confusément qu'ainsi serait la vie, pleine de choses tout étranges, destinées à un seul et qui ne se laisse pas dire. Il est certain que peu à peu, un triste et lourd orgueil grandit en moi. J'imaginais que l'on pourrait aller et venir, plein de secrets et silencieux. Je ressentais une fougueuse sympathie pour les grandes personnes. Je les admirais et me proposais de le leur dire. Je me proposais de le dire à mademoiselle à la prochaine occasion. Et c'est alors que survint une de ces maladies qui tentait de me prouver que ce n'était pas là ma première aventure personnelle. La fièvre fouillait en moi et tirait du plus profond des expériences, des images, des faits que j'avais ignorés jusque-là. J'étais écrasée par moi-même et j'attendais l'instant où l'on me commanderait de ranger de nouveau tout cela en moi, soigneusement et dans l'ordre. Je commençais, mais cela grandissait dans mes mains, se raidissait, il y en avait trop. Alors la colère s'emparait de moi et j'enfouissais tout, pêle-mêle, et le comprimais. Mais je ne pouvais pas me refermer par-dessus. Et je criais alors, à moitié ouvert, je criais et criais. Et quand je commençais à regarder hors de moi-même, ils étaient depuis longtemps debout autour de mon lit et me tenaient les mains, et une bougie était là et leurs grandes ombres remuaient derrière eux. Et mon père m'ordonna de dire ce qu'il y avait. C'était un ordre amical, donné à mi-voix, mais c'était un ordre quand même. Et il s'impatientait parce que je ne répondais pas. Maman ne venait jamais la nuit, ou bien si, pourtant, elle vint une fois. J'avais crié et crié, et mademoiselle était venue, et Siversen, la femme de charge, et Georges, le cocher, mais tout cela n'avait servi à rien. Et ils avaient alors enfin envoyé la voiture pour ramener mes parents, qui étaient à un grand bal, je crois, chez le prince héritier. Et tout à coup, j'entendis un roulement dans la cour, et je me tus, me mis sur mon séant, et regardai vers la porte. Et il y eut un léger bruissement dans les chambres voisines, et maman entra dans sa grande robe d'atour, dont elle ne prenait même plus soin, et elle courait presque, et laissa tomber derrière elle sa fourrure blanche, et me prit dans ses bras nus. Et je tâtais, étonnée et ravie comme jamais, ses cheveux, et sa petite figure lisse, et les pierres froides à ses oreilles, et la soie au bord de ses épaules qui sentait les fleurs. Et nous restâmes ainsi, et pleurâmes tendrement, et nous embrassâmes, jusqu'à ce que nous sentîmes que mon père était là et qu'il fallait nous séparer. « Il a beaucoup de fièvre, » dit maman timidement. Et mon père me prit la main et compta les battements du pouls. Il était en uniforme de capitaine des chasses, avec le large et beau ruban bleu ondé de l'ordre de l'éléphant. « Quelle stupidité de nous avoir fait appeler, » dit-il tourné vers la chambre sans me regarder. Ils avaient promis de revenir si le cas n'avait rien de grave. Et en effet, il n'était pas bien grave. Sur ma couverture, je trouvais le carnet de bal de maman et des camélias blancs comme je n'en avais jamais vu et que je posais sur mes yeux lorsque je sentis combien ils étaient frais.